18h dans le studio Kalangu, bienvenue dans ce journal en français, présentation de Fils Adamou Sirfo. Au sommaire de ce journal, dans la soirée du 20 juillet, une patrouille mixte des forces de défense et de sécurité de la région de Tillabéri est tombée dans une embuscade tendue par des bandits. Des échanges de tirs entre ces bandits et les gendarmes ont occasionné la mort d'un gendarme et plusieurs autres blessés. Une semaine après la signature de la déclaration du 14 juin, des affrontements ont eu lieu hier après-midi au centre-ville de Kidal au Mali. On fera le point dans quelques instants. Jill Biden, l'épouse du vice-président américain, poursuit sa visite au Niger. Ce matin, elle a rencontré les femmes parlementaires avant d'être reçue en audience par le président de la République, Issoufou Mahamadou. À Zender a été lancée ce matin la 14e édition des activités de l'Amicale des étudiants en médecine. Une caravane de sensibilisation sur plusieurs pathologies se tient à cette occasion. Enfin, la fièvre Lassa, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les causes et symptômes et comment se fait son traitement? Réponse tout de suite dans la partie magazine de ce soir. Bonsoir à tous. Le mercredi 20 juillet 2016, aux environs de 10h, une patrouille mixte des forces de défense et de sécurité de la région de Tillabéri est tombée dans une embuscade tendue par une trentaine de bandits armés sur 10 motos à 4 km de Boujdeï, dans le département de Bani Bongou, région de Tillabéri. Au cours des échanges de tirs, un gendarme de première classe a rendu l'âme et trois autres de ses collègues blessés sont actuellement en soins à Niamey. La levée du corps du gendarme a eu lieu hier jeudi à Walam en présence du commandant de la brigade territoriale, le colonel Moussa Boubacar, le gouverneur de la région de Tillabéri Cheloutène Mohamed et les responsables des forces de défense de la région. Je l'annonçais dans les titres, des combats ont éclaté hier dans l'après-midi au centre-ville de Kidal entre les éléments de la CMA et ceux de la plateforme du 14 juin 2014, signataire de la déclaration de Niamey la semaine passée. On fait le point avec Tarnan Foudey Ahmed.
Jeudi soir à Kidal, aux environs de 16h, les coups de feu ont éclaté dans les centres-villes. Les affrontements ont opposé des membres du groupe d'autodéfense Touareg Mghad et Alié Gatcha, l'une des composantes de la plateforme du 14 juin 2014, à des membres du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, l'une des principales composantes de la coordination des mouvements de l'Azawad SEMA. Les combats violents ont été confirmés dans un communiqué par la mission des Nations Unies au Mali présente à Kidal. Selon un élu local joint par l'AFP, c'est une querelle de pouvoir entre tribus Touareg rivales qui a mis les feux aux poudres. Les combats sont liés à un problème de leadership entre celle des Imrad et celle des Iforas pour le contrôle de Kidal, a déclaré cet élu. L'élément déclencheur des hostilités semble être lié à la mort d'un homme du HCIA, Asadek Agmosa, présenté comme un officier le 19 juillet à Kidal. Aucun bilan n'était disponible dans l'immédiat, mais des victimes sont à déplorer. Ces affrontements interviennent juste après la signature de la déclaration de Niamey, dans laquelle la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme du 14 juin 2014 s'engageaient à tout faire pour que la tension baisse à Kidal en attendant la mise en place effective de l'accord de l'Algérie.
C'était l'ARC signé Tarnan Foudey Ahmed. Suite aux fortes précipitations qui se sont abattues dans la zone d'Anoumakren, dans le département d'Arlit, le tronçon bitumé de l'axe Arlit-Agadez a été coupé non loin du village d'Anoumakren. Le préfet du département s'est rendu sur les lieux pour constater de visu l'état de la situation. El Hadj Alat Mogaskia, préfet d'Arlit, joint ce matin au téléphone par Gungu Mahamad Dantani, nous fait le point de la situation.
La vallée est en inondation. La dégradation a fait casser la route, interrompant de fait la circulation. Nous avions demandé aux militaires en poste à Anoumakren de se déployer sur les lieux pour protéger les personnes et les biens, faciliter l'écoulement de la circulation et avant le rétablissement, éviter que des chauffeurs trop imprudents n'entreprennent une traversée hasardeuse comme on l'a dit une fois. Qui nous implante un camion dans un coup. Autour de 10h30, la situation était provisoirement établie. Donc, il reste maintenant les mesures qui assure la traversée de la saison des pluies. Mais en attendant, tous les camions chargés de marchandises ne pourront pas faire la traversée. Les bus peuvent passer. Les bus vont et viennent. Hier, avant que je n'arrive, j'ai rencontré 16 véhicules, toutes catégories confondues.
Vous venez d'écouter El Hadj Alata Mogaskia, préfet d'Alita. L'épouse du vice-président américain Jill Biden poursuit sa visite au Niger. Elle a été reçue ce matin par le président de la République. Ensuite, elle a rencontré les femmes parlementaires, les femmes entrepreneurs et les défenseurs de la démocratie au Niger. Hadiza Seyni, députée, nous fait le point de leur échange.
Là, c'est une première prise de contact. Elle a voulu savoir le problème, le vrai problème sur la scolarisation de la jeune fille. Elle-même, en tant qu'éducatrice de formation, et on lui a un peu brossé la situation. Et elle s'est intéressée aussi à la politique de la femme nigérienne. Ça, il y a eu deux exposés. Un exposé qui a été fait par l'honorable Mariama Ali, qui était ancienne ministre de l'Éducation, donc qui a parlé sur l'éducation de la jeune fille, et moi-même qui ai parlé sur la loi sur le quota et la politique des femmes au Niger. Donc, elle a pris acte et je pense qu'on va continuer à travailler avec l'ambassadrice des États-Unis qui est ici dans le cadre de nos projets. Mais vraiment, nous avons bien apprécié la visite. Déjà, c'est la première puissance mondiale qui s'intéresse à la situation de la femme nigérienne. Pour nous, c'est déjà assez avancé parce que là-bas, au moins, ils ont des méthodes, ils ont des manières où ils peuvent faire peut-être pression sur le gouvernement pour pouvoir changer cette loi. Mais, comme je l'ai dit, on va continuer à travailler avec l'ambassadrice des États-Unis et avec l'USAID pour qu'il y ait des changements, pour qu'il y ait quand même une évolution de la situation de la femme au Niger.
Le commissariat à l'organisation du Hajj de la Umrah a procédé hier au tirage au sort pour l'ordre de départ des agences pour le pèlerinage de cette année. Ce tirage qui s'est déroulé en présence d'un huissier de justice rentre dans le cadre de la transparence et de l'équité de la gestion des agences de voyage. Explication avec Hafizou Mahamadou, secrétaire général par intérim du COHO. Il était joint au téléphone par Lauratou Ibrahim Gado.
On a fait déjà un programme robot.
Dans quel but avez-vous procédé à ce tirage?
Pour savoir qui de ces agences va partir le premier, le deuxième et jusqu'à la fin. La liste des deux groupes d'agences a été établie parce qu'il y a deux compagnies de transport. Pour chaque compagnie, on a fait une liste par ordre de la phase aller.
Et le retour?
Donc cet ordre qui a été établi à l'aller sera respecté au retour.
Quelles sont ces compagnies?
Nous avons la compagnie saoudienne Flynas et la compagnie nigérienne Niger Airways. Donc nous avons 16 agences pour la compagnie Flynas, dont la première est l'agence Raudat al-Ahbab du groupe Bamaka. Et au niveau du groupe des agences qui ont choisi Niger Airways, le premier à partir sera Inch'Allah le groupe Al-Manati.
C'était là les explications de Hafizou Mahamadou, secrétaire général par intérim du COHO. Le syndicat des conducteurs de taxis compte mettre à la disposition des sociétés de la population des taxis pubs. L'idée est de faire des annonces publicitaires à travers les têtes de taxis. Selon Yensambou Gamache, c'est un vieux rêve qui va se réaliser dans les jours à venir. Il est au micro de Habibou Garba.
Il s'agit de poser des enseignes lumineuses sur les taxis pour faire des annonces et des publicités sur les taxis. Donc les enseignes sont lumineuses, donc la nuit, elle s'éclaire. Et c'est une idée que nous avons depuis plusieurs années, mais faute de moyens, on n'a pas pu mettre ça en œuvre. Comme nous avons trouvé un partenaire qui a déjà commencé avec ça, donc nous avons signé un contrat avec cette société.
Vos taxes ne seront pas augmentées au niveau de la ville de Niamey?
Non. Tout est réglé, on ne peut pas faire de la publicité sans en tout cas respecter les lois et les règlements par rapport à ça. La mairie va avoir ce qu'elle va avoir en tant que ville, tout juste dans un esprit gagnant-gagnant. Nous, nos militants, on va gagner, les échantillons sont venus, et dans peu de temps vous allez les voir en train de circuler et de Niamey. La ville a été mise dans ses droits, la police n'a rien à voir dans cette affaire.
À Zender, la 14e édition des activités de l'Amicale des étudiants en médecine a été lancée ce matin. Les thèmes retenus pour cette caravane sont diabète et hypertension artérielle, dépistage, sensibilisation et prise en charge du cancer du col de l'utérus et du sein, contraception, IST, VIH et plusieurs autres pathologies. L'axe Zender Magaria Dungas a été choisi cette année pour cette 14e édition. Plus de précisions avec Abdoukar, secrétaire général à l'organisation de cette amicale.
Le samedi même, on va faire le dépistage du diabète et de l'HTA ici dans la ville de Zender et aussi dans une ville à côté juste de Zender. Le dépistage de l'HTA, ça sera fait Inch'Allah le samedi à partir de 7h30. Et je profite aussi pour lancer, informer la population si possible d'y assister massivement. Vu que nos parents ne savent pas qu'ils ont l'HTA. L'HTA, c'est l'hypertension artérielle. Si on voit que la personne a l'hypertension artérielle, on va le guider, lui faire un cachet et le référer à l'hôpital. On a prévu aussi de partir à l'axe Magaria Dungas le lundi, Inch'Allah, accompagné de certains enseignants-chercheurs, nos enseignants-chercheurs de médecins spécialistes, si je peux le dire. On a prévu de suivre ces thèmes aussi, diabète, et on va aussi sensibiliser nos mères sur le dépistage des cancers du col et du sein. Donc, si la population est sensibilisée, donc, de près, dès que les signes vont commencer à apparaître, nos chères mères vont essayer directement de s'adresser à l'hôpital avant que ça soit trop tard.
Propos recueillis par notre correspondant à Zender, Ali Keita. Le 27e sommet de l'Union africaine s'est achevé lundi dernier à Kigali, au Rwanda. Il ressort des conclusions de ce sommet la création d'une taxe pour financer l'organisation, une taxe de 0,2% sur tous les produits d'importation des 54 pays membres de l'Union africaine, à l'exception de quelques biens de première nécessité. Selon Mamoudou Djibo, enseignant-chercheur à l'Université de Niamey, chaque pays doit s'assumer en payant ses cotisations pour le bon fonctionnement de l'Union africaine.
Dans la mesure où l'Union africaine veut affranchir l'Afrique de la tutelle des organisations internationales, veut recréer le cadre qui a été raté dans les années 60 avec les États-Unis d'Afrique, dès lors que l'Union africaine s'accroche au financement extérieur, ça veut dire que l'Union africaine accepte d'une manière ou d'une autre de renoncer à partie ou totale sa souveraineté. La première chose qui devait incomber aux États, c'est que chaque État accepte sa part de sacrifice. Il aurait fallu que le budget soit équitablement réparti pour que chacun s'assume. Dès lors que les gens ne peuvent pas s'assumer, on a tout de suite pensé à une taxe sur les billets d'avion. Je ne sais pas ce que c'est devenu. De toutes les façons, dans les faits, c'est devenu inopérant. En tout cas, on n'en voit pas les retombées. Et cette perspective de financer le fonctionnement de l'UIA avec les taxes sur les importations, là encore, je dis, ça va être un gros problème. Parce que si les importations sont taxées, ça va se répercuter sur les investissements en infrastructure. Et aussi, est-ce que tous les États vont être loyaux pour reverser systématiquement?
Des propos recueillis par Adama Dawaki. Notre partie magazine de ce soir parle de la fièvre hémorragique à Lassa, une maladie mortelle dont quelques cas ont été signalés dans certains pays frontaliers tels que le Nigeria, le Bénin ou le Togo. Pour l'heure, l'on ne dénombre aucun cas au Niger, mais la vigilance s'impose. Qu'est-ce que c'est que la fièvre Lassa, les causes, les symptômes et les mesures de prévention? Docteur Ilyas Ouidi Menassara, médecin chef au district sanitaire de l'arrondissement communal 1, répond au micro de Moutari Mahamadou.
La fièvre hémorragique de Lassa est due à un virus qu'on appelle donc arénavirus. Pourquoi on l'appelle Lassa? En fait, la première personne qui a été attaquée par ce virus, c'est au Nigeria, dans une ville du Nigeria qu'on appelle Lassa. Et c'est ce qui explique que c'est une fièvre qui sévit au Nigeria, mais on la retrouve dans les pays du Grand Lac. On peut la voir en Guinée, au Sierra Leone, où les conditions météorologiques sont plus favorables pour le développement de ce virus. La cause principale de cette fièvre, c'est d'abord la présence du virus en circulation dans cette région. Le deuxième facteur, c'est le brassage. Donc, même les pays frontaliers peuvent être atteint. L'autre facteur, c'est aussi les autres vecteurs, le rat, donc sont vraiment les principaux facteurs, mais également les cadavres d'animaux qui sont atteints, par exemple, ou les personnes même atteintes qui peuvent héberger le germe et contaminer les autres personnes. Il n'y a pas de vaccin à l'heure actuelle. En tout cas, aujourd'hui, on est le 22 juillet 2016. Jusque-là, en tout cas, le vaccin est à l'essai clinique. Et vous avez même les derniers cas qui remontent à pratiquement au 16 juillet 2016 qu'on a identifié au Togo. Sur le plan clinique, c'est une fièvre qu'elle donne, l'encéphalite, c'est-à-dire les maux de tête, les myalgies, les douleurs musculaires. Elle donne une grande fatigabilité. C'est ce qu'on appelle une asthénie totale ou générale. Fatigue physique, psychique, intellectuelle et même une fatigue sexuelle. C'est-à-dire la personne a des malaises parfois qu'elle ne peut pas expliquer. Elle peut donner des nausées, vomissements et simuler un palud. Et c'est en ce moment-là qu'elle va évoluer vers les signes les plus graves. Elle peut donner la démangeaison, elle peut donner des saignements. C'est pour ça même qu'on l'appelle fièvre hémorragique. C'est une maladie qui est très très grave et très mortelle. Si on ne prend pas disposition, au même titre que la fièvre hémorragique Ebola, elle est aussi nuisible et vraiment elle se propage très rapidement. L'éviter, c'est vraiment d'abord les précautions. Il faut la dépister à temps. Il ne faut pas le toucher, il faut faire un examen. Si c'est la maladie, il faut faire une éviction. Il faut empêcher aux gens qui sont atteints de voyager. Il faut empêcher aux gens de rendre visite à ceux qui sont atteints. Il faut observer des mesures d'hygiène strictes. Tout ce que le malade utilise, ne pas le toucher. Ça veut dire ici, c'est la prévention qui est très importante.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.